Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur ? C'est parti ! Aujourd'hui, je suis avec Lisa Fassi. Lisa, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas ?
Oui, bonjour. Du coup, moi, c'est Lisa Fassi. Je suis développeuse chez Skello depuis maintenant 2 ans, donc développeuse full stack.
Et le sujet du jour que tu m'as proposé et que j'aime beaucoup, ça tourne autour du scale-up, de comment tu passes d'une toute petite équipe à une grosse équipe. Est-ce que tu peux nous raconter déjà un petit peu ton histoire et après on pourra rentrer dans le fond du sujet autour des leçons que tu en retires, des patterns que tu as pu voir et des trucs que tu as trouvé cool et moins cool.
Oui, bien sûr. Du coup, pour ce qui est de mon histoire, moi j'ai eu l'occasion de travailler dans beaucoup de petites startups où on était maximum 2 ou 3 dans toute l'entreprise au global. Donc le but, c'était de sortir un produit rapidement et de pas forcément faire attention à la qualité de code. Et là, depuis peu, donc ça va faire 2 ans, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une nouvelle boîte, Skello, qui est une entreprise qui, elle, scale totalement, que ce soit du côté humain ou technique. Donc maintenant, je suis dans une équipe de 30 à 40 développeurs et notre objectif est de passer d'un gros monolithe à des microservices et vraiment séparer les choses et les responsabilités.
Pourquoi vous voulez faire ça ?
On veut faire ça parce que la gestion d'un monolithe, c'est pas vraiment simple. Et si par exemple, on a une erreur quelque part dans la plateforme, tout va s'éteindre. Alors que le fait d'avoir des microservices fait qu'on peut éteindre une partie de la plateforme et ça posera pas forcément problème sur le client. Il s'en rendra pas compte. Ça permet d'avoir une meilleure gestion.
Alors, ton second point me paraît tout à fait valable. Le premier me paraît quand même assez fallacieux.
C'est-à-dire ?
Parce que si tu crois que tu vas y gagner d'un point de vue simplicité de maintenance en passant d'un monolithe à du microservice, là, c'est un peu une erreur d'appréciation pour la faire.
C'est vrai, totalement. Je me suis peut-être mal exprimé. C'est pas forcément de la simplicité de maintenance, mais disons que c'est plus simple quand tu cherches la raison du problème. Tu sais exactement où aller, tout est vraiment compartimenté niveau responsabilité. Ah oui, c'est vraiment l'expérience que j'en ai.
C'est intéressant parce que la petite expérience que j'en ai, quand tu commences à avoir des systèmes explosés, tu as des nouveaux challenges qui apparaissent au niveau en termes de lenteur de système, en termes d'appels qui peuvent maintenant échouer, qui ne pouvaient pas échouer avant, et surtout de traçabilité de ta pile d'appels. Comment tu résous ces enjeux-là sur du micro? Comment vous l'avez fait, vous, pour résoudre ces problèmes-là?
Nous, justement, la question de la traçabilité, c'est souvent quelque chose qu'on se pose dès le début quand on veut mettre en place un nouveau microservice. Parce qu'on part d'un monolithe. Du coup, on a déjà une solution définie et fonctionnelle. Et le but, c'est de la découper en petites parties. Du coup, au moment du découpage, on sait qu'on a des traces actuellement. Et c'est des traces qu'on utilise, donc on veut les garder. Du coup, on va essayer de monter une architecture et faire en sorte que si quelque chose plante, on a toujours une trace pour savoir pourquoi il a planté, avec quels paramètres et qu'est-ce qui s'est passé juste avant. Du coup, par exemple, si chez Skello, on utilise le Ruby pour le monolithe encore, bientôt terminé. Mais donc, par exemple, tu peux avoir une gestion de tes jobs et savoir quand est-ce qu'il a été envoyé. Donc, tu sais que ton job, il s'occupait à écrire dans une queue. Donc, une fois que tu es dans la queue, tu sais à quelle heure est arrivé le message, quel paramètre il a. Puis après, du coup, tu as la trace de ce message dans la queue. Donc, tu sais quand est-ce qu'il a été envoyé. Ensuite, quand tu récupères dans ton microservice, tu as encore une trace de la donnée.
Ouais, et du coup, tu arrives à remonter une pile d'appels de manière assez fluide et facile.
Ouais. Honnêtement, c'est quelque chose qui aide en plus au quotidien. Quand tu as un bug ou un souci sur la plateforme, ça aide vraiment de pouvoir savoir à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé.
Ok, c'est cool.
Et du coup, tu as eu l'occasion de travailler avec des microservices.
Alors, peu, c'est ce que je te dis. Moi, les quelques fois où j'ai commencé, moi, j'ai une image assez négative de ce pattern-là parce que je l'ai trop souvent vu mal employé. Je l'ai beaucoup plus vu mal employé que bien employé.
Okay.
Et les quelques fois où j'en ai eu besoin, moi, on est allé très progressivement et ça, en commençant par un monolithe et en commençant à le découper. Et là, ça s'est plutôt bien passé. Mais parce qu'on a amené juste ce dont on avait besoin et ce qu'on était capable de gérer. J'ai vu, moi, des projets sans mentir, sur un truc où on avait démarré en prod, un nouveau directeur technique arrive et je crois qu'il y avait, il passe d'un monolithe à, je sais pas s'il y avait pas une centaine de microservices, je blague pas quoi. Et on était facilement en dizaines quoi. Il y avait au moins 20 ou 30 microservices, dont peut-être 2 qui étaient ready pour la prod quoi. Donc quand tu arrivais en tant que développeur là-dedans, tu te retrouvais à devoir lancer 12 machines Docker, enfin c'était du grand n'importe quoi pour une équipe de 3 personnes, en fait.
Ah oui, d'accord.
Tu vois, c'est ce genre de choses que j'ai vu. Moi, j'ai vu des trucs dans des grosses boîtes du CAC 40. Les mecs, ils se sont fait plaisir. Ils ont démarré, ils ont zéro utilisateur. Ils savent pas où la charge utilisateur va aller, mais ils ont 8 microservices.
Ouais, moi je trouve que ça recoupe avec le sujet de tu commences à tout mettre en place alors que t'as même pas encore validé l'importance de ton projet en fait. C'est que je trouve que les microservices c'est intéressant à partir du moment où ton produit il est validé, utilisé par des utilisateurs et t'as des problèmes de performance, t'as des problèmes de gestion d'erreurs. Et du coup là, les microservices deviennent intéressants parce que tu vas pouvoir isoler tes actions. Mais si tu mets que des microservices dès le début, la complexité est là dès le début et ça change pas en fait. Je pense que ça change pas grand-chose.
Ah, je pense que c'est juste pire.
Ouais, c'est même pire, oui.
Et vous, les microservices, quand vous avez commencé à migrer sur ce pattern-là, vous étiez à combien? Ça, c'est une question intéressante. Vous l'avez fait quand vous étiez encore tout petit ou vous l'avez fait une fois que vous étiez étoffé en termes de ressources?
Oh non, on a commencé, on devait être une quinzaine, je pense, 10-15. On n'avait pas forcément de connaissances dans AWS à ce moment-là. Parce qu'on s'est lancé sur AWS du coup. Et du coup, ça a permis de. Enfin, on a vraiment fait petit à petit un microservice par un microservice. Et au fur et à mesure, le but était de partager la connaissance, faire les documentations qu'il fallait et commencer à avoir une sorte de schéma sur comment tu fais pour démarrer un microservice. Comme ça, à la fin, tout le monde est un peu au courant. Et quand tu arrives aujourd'hui, on doit avoir quelque chose comme, je dirais, 6 microservices en prod qui tournent et qui fonctionnent. Donc, quand tu arrives en tant que nouveau développeur, normalement, déjà, tu n'es pas censé avoir besoin de tout installer. C'est censé fonctionner direct. Et après, quand tu as besoin de travailler sur un microservice, bah, tu as forcément la documentation qui va avec et tu as forcément l'équipe qui a travaillé dessus, qui est prête à voir avec toi pendant 1 heure, t'onboarder dessus et t'expliquer comment ça fonctionne et l'architecture du microservice.
Ouais, donc vous vous êtes mangé à la complexité d'une archi microservice progressivement et vous avez grandi en compétences et en skills
Ouais.
et en organisation autour de ça, quoi.
Exactement, exactement. Ouais.
Ce qui me paraît être la meilleure, pour pas dire la seule manière intelligente de faire ça, quoi. C'est cool. Et d'ailleurs, si toi, auditeur, tu as d'autres expériences positives de comment passer au microservice, ben, tu peux me contacter et on fera un épisode pour démentir ce que je viens de dire et ça me fera plaisir. Et alors toi, comment tu as vécu ce passage de... Bah, quand tu es rentré chez Skillo, vous étiez combien? Et aujourd'hui, vous êtes combien?
Alors, en global, quand je suis rentré chez Skillo, on était, on va dire, 80. Et là, maintenant, on est 225.
Ok. Et chez les techs, au dev, il y avait combien de personnes?
Et niveau de dev, quand je suis arrivé, on devait être 15. Et maintenant, on est une grosse trentaine.
Ok, donc tu as vécu en gros x2, quoi.
Exactement. Et puis, franchement, c'était très intéressant parce que quand je suis arrivé, c'était les devs qui s'occupaient un peu de tout. Et on n'avait pas vraiment d'équipe d'architecture, on n'avait pas d'équipe qui s'occupait de l'infra et de la data. Et du coup, j'ai vu ça se créer. En fait, quand tu vas créer des microservices, tu vas avoir besoin de connaissances qu'un développeur n'a pas forcément. Et le développeur, il est, pour moi, c'est pas son rôle de mettre en place une architecture et tout ça. Lui, il va pouvoir la développer, il va pouvoir réfléchir à la technologie et tout. Mais il n'est pas censé aussi réfléchir à avoir l'architecture la plus optimisée et en plus gérer l'après s'il y a des problèmes d'infra ou des choses comme ça. Du coup, c'était intéressant de voir comment l'équipe a évolué pour que les développeurs puissent avoir un rôle de développeur et qu'on ait une vraie équipe infra qui s'occupera de tout ce qui est infrastructure, mise en place d'architecture et tout, création si je puis dire. Et toute l'équipe data qui s'occupe de la partie données, quoi. Et le développeur s'occupe que de son métier.
Ah, c'est drôle ça, parce que alors c'est vraiment extrêmement drôle parce que juste avant j'ai enregistré un podcast avec quelqu'un où on parlait du métier de DevOps et où je défendais cette thèse, donc j'ai aucune idée de l'ordre de publication des épisodes, mais on n'est frontalement pas d'accord en fait. Pour moi, le développeur doit s'intéresser à tous ces enjeux qui sont autour, qui sont certes pas d'écrire du code, mais s'il s'intéresse pas aux enjeux d'infra, d'admin. Bah, moi je trouve que ça fait partie du métier, quoi, en fait.
Non, oui, par contre, là, je te rejoins. Là-dessus, je te rejoins totalement. Tu es censé t'y intéresser et tu es censé être au courant de ce qui se passe. Tu es censé connaître. Nous, par exemple, tu as toujours un développeur qui va faire partie de la décision quand ils vont créer l'architecture. Et il va toujours être au courant de comment est gérée sa donnée, comment est gérée l'architecture et tout ça. Et il va être décisionnaire dans tout ça. Mais c'est juste que ce n'est pas totalement sa responsabilité à lui de tout faire. Sinon, il peut pas tout faire à 100%, moi, je trouve. Sinon, tu perds énormément de temps et d'efficacité, je pense.
Bah, c'est pas une personne de le faire, c'est une équipe.
Ouais, mais quand tu fais dans une équipe, tu finis toujours par avoir chaque personne qui aura un rôle spécifique à la fin. Donc ça finit par se séparer en différentes tâches. Qu'est-ce que t'en penses ?
Non, je partage pas à 100% ce que tu dis. Qu'il y ait des gens qui se spécialisent ou qui se musclent plus sur certaines parties, oui, ça me paraît naturel et ça va dépendre un peu des affinités. Maintenant, pour moi, c'est vraiment l'équipe qui est responsable, tu vois. Moi, en tant qu'XP extrême programmeur de la première heure, on se posait pas toutes ces questions. Il y avait une plateforme, il y avait un produit, on était responsable de la prod, quoi.
Oui, j'ai eu cette conversation il n'y a pas longtemps avec d'autres développeurs, justement, où cette évolution du métier de développeur sur ces 10 dernières années, où à l'époque, le développeur faisait vraiment tout, quoi.
Quand tu le dis comme ça, mais j'ai l'impression d'être vieux.
Pardon, c'était pas le but.
Ouais, dans le temps, il paraît que ça se passait comme
non,
ça.
Non, mais par exemple, moi, je viens d'une école. Dieu.
Attends, bouge pas, je ramasse mes dents.
Non, mais par exemple, moi, je viens d'une école où il y a beaucoup de développeurs qui pensent comme ça. Moi, j'ai beaucoup pensé comme ça pendant longtemps aussi. Où, pour moi, si tu fais un projet, toutes les parties du projet sont ta responsabilité. T'es le développeur, t'es censé penser à la bonne architecture avant de commencer à travailler. Ensuite, quand tu commences à travailler, tout va bien. Et tout ce qui est gestion d'infrastructure, de tes outils, où est-ce que tu vas host ça, comment tu vas faire pour ça, ça et ça. Avant, tout était la responsabilité du développeur. Sauf que du coup, t'avais pas mal de failles dans le sens où, même si c'est une équipe, admettons, on va pas dire un développeur, c'est une équipe entière, t'as pas mal de failles où, si par exemple, la personne, elle a pas toutes les connaissances côté infra, il y a des choses qu'elle va pas pouvoir faire comme il faut. Ou elle va devoir itérer au moins 30 fois sur la même chose avant de finir par avoir quelque chose de qualité. Et pour moi, c'est pour ça que le rôle de développeur a évolué.
Et donc, le fait de se spécialiser vraiment permet d'être bon dans ces sujets-là.
Exactement.
C'est ça que tu veux dire.
Et c'est pour ça que, après, pour moi, ça rejoint un peu le débat quand on dit un développeur senior. C'est un développeur senior dans un langage spécifique, parce qu'il s'est spécialisé dans ce langage. Pour moi, c'est un peu pareil.
Et encore un sujet où on n'est pas d'accord.
Ah, c'est fou, hein.
Waouh, est-ce que c'est un conflit générationnel, les Y contre les X? Ou les Z, parce que moi, je suis pas un X, je suis plutôt un Y. Tu es né en quelle année, toi?
Oula, je sais pas si j'ai envie de le dire. Je suis né en 97.
Tu es né en 97, l'année où je passais mon bac. Ok. Donc, quand mon premier enfant est né, tu rentrais en OCP. Ok.
Waouh. Ah oui, j'avoue que vu comme ça, c'est... Ouais. Après, je trouve ça très intéressant, justement, de comparer toute cette nouvelle mentalité, si je puis dire, et la mentalité de base, en fait, de comment c'était censé fonctionner. Parce que c'est vrai que...
Attends, bouge pas, je ramasse encore 2-3 dents, là.
Je me souviens de toi.
Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que je prends cher dans cet épisode. Et maintenant, je vais mettre un filtre. Hein. C'est moins de 30 ans, tu viens pas sur le podcast. Il n'y a pas moyen, quoi. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est, alors, est-ce que c'est générationnel, hein? Tiens, auditeur qui m'écoute, si tu te retrouves dans une des deux catégories, est-ce que tu penses que c'est générationnel? Tu m'envoies un petit mail, benoît@artisandeveloppeur.fr. Mais non, c'est hyper intéressant dans cette vision du métier. Tu as raison, en fait, quand je m'écoute parler, je me dis « Ouais, dans le temps, on faisait comme ça. » Mais finalement, peut-être que c'est moi le vieux crouton qui voit pas que ça bouge, en fait.
Non, après, moi, je pense qu'un développeur, il est censé savoir tout faire. Dans le principe, il est censé savoir tout faire. C'est juste que je pense que c'est plus simple de gérer une problématique que de devoir penser à tous les aspects de ton projet. Après, par contre, il doit être au courant de tout.
Bah, tu vois, l'accès inverse que j'ai déjà vu et qui m'a un peu perturbé, c'est, je vais reprendre le même exemple que j'ai donné dans l'autre podcast juste avant. J'ai ce souvenir une fois d'un développeur qui galérait sur un sujet réseau. Et quand on a prononcé le mot DNS, je l'ai vu ouvrir des grands yeux ronds. Il me dit, c'est quoi un DNS? Et là, je me suis dit, merde, il y a un problème. Et là, je me suis dit, il y a eu un trou dans la raquette de la formation. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, le gars, il avait reçu une formation plutôt longue, quoi, sur type école d'ingé ou un truc comme ça. Et je me dis, où est-ce qu'il y a un problème? Il est expérimenté, il a reçu une formation qui se veut complète et il ne sait pas ce qu'est un DNS. C'est moi qui suis un vieux con, là, ou il y a un problème quelque part?
Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. C'est vrai que c'est assez perturbant. Non, par contre, moi, je pense un peu comme toi. Hein. Je trouve qu'il y a des bases à avoir en tant que développeur quand même. Tu es censé savoir comment fonctionne ta machine, comment fonctionne le réseau. Et de base, il faut que tu comprennes comment est interprété le code que tu développes et ça t'aide à comprendre beaucoup de choses sur pourquoi ça marche pas, pourquoi ça réagit comme ça. Non, je suis assez étonnée qu'ils connaissent pas un DNS non plus quand même. C'est c'est beaucoup. Hein.
Ok, ça va, tu es gentil, tu fais un effort, tu rejoins un peu ma cause alors.
Non, je le pense vraiment.
Non, mais en plus, c'est intéressant parce que le discours que tu tiens, c'est sur la spécialisation et la capacité à aller en profondeur sur certains sujets. C'est exactement celui que je tiens et sur d'autres aspects, tu vois, notamment dans le dev blockchain. J'ai fait le choix de me spécialiser sur une tranche très étroite qui est le développement de smart contracts sur machine virtuelle Ethereum. Et là, si tu n'as rien compris à ce que je t'ai dit, c'est normal, mais en gros, c'est le code qui tourne sur les blockchains, puisque les blockchains permettent d'exécuter du code de manière décentralisée, et c'est tout l'intérêt de la chose d'ailleurs. Et donc, ces contrats-là ont des spécificités très, très particulières qui font que y a des gros enjeux de sécurité, enfin, y a plein de sujets autour de tout ça. Et le parti pris que j'ai eu moi, ça a été de dire, bah, c'est très spécifique, ça demande un niveau d'expertise très profond, assez étroit et profond, et du coup, bah, je vais plus faire plein d'autres choses, notamment du web 2. Je vais plus en faire, plus faire de développement web pour me focusser là-dessus. Donc tu vois que moi aussi, je rejoins ta manière de voir le truc. Et effectivement, quand tu arrives à une trentaine, il peut y avoir un rationnel économique et de performance, c'est-à-dire il y en a quelques-uns qui vont se spécialiser sur tel domaine et qui vont devenir un peu les garants du truc.
Oui, c'est ça, parce qu'il faut bien des experts en fait. Et sauf que pour être un expert dans un domaine, t'es obligé de laisser de côté quelques domaines. Après, je dis pas, tu peux toujours y revenir plus tard, mais pour être expert dans un seul domaine, au moins un, il faut que tu t'y consacres à 100% pendant un certain temps. Du coup, tu peux pas... Dans une vie, t'as pas le temps de voir tout ce qui se passe dans le domaine du développeur en fait. Et d'être un expert dans tout, je veux dire.
Ah, dans le temps, on pouvait, ma petite.
C'est vrai. Ou j'allais dire quelque chose, mais...
Et merde.
Disons que les machines se sont complexifiées, voilà.
Non, les... Hein, papy, t'as pris tes médicaments. Eh hey merde, moi je voulais faire ce métier jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Tu crois que je vais pas pouvoir en fait.
Si, je pense que c'est faisable, mais c'est juste qu'il faudra faire des choix. On peut pas tout apprendre. Il n'y a pas le temps de tout apprendre de manière à être un expert dans le domaine.
Mais alors du coup, ça se passait comment quand tu étais dans les petites boîtes?
Ah non, les petites boîtes, c'était très intéressant parce que.
Parce qu'elles ont pas vraiment les moyens de ça, tu vois. T'as pas les moyens de te payer des experts en général quand t'es petit.
C'est ça, et surtout qu'il faut qu'ils sortent un produit rapidement et qu'il fonctionne. Et eux, ils n'ont pas forcément... En fait, je vais repenser à un article que j'ai vu là sur ton site il n'y a pas longtemps où c'était quelqu'un qui disait sur LinkedIn, un post LinkedIn qui disait que le TDD
si
au début,
si
on
tu
s'en
me dis
fout,
que tu
le
du
co- DDD
si,
au début, on s'en
si
fout.
Tu
non,
si tu me dis que tu es du côté de Kevin, on va commencer à se fâcher.
Je ne suis absolument pas de ce côté-là. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe malheureusement. Je suis pas pour, parce qu'en fait, c'est horrible pour après, puisque de toute façon, il faudra tout refaire. Donc pour moi, c'est une perte de temps phénoménale. Mais le problème, c'est que c'est ce qui se passe clairement quand tu démarres un projet dans une startup, c'est que la personne qui t'a engagé, elle te demande pas de faire du code propre et de qualité ou quoi, elle te demande de sortir un produit fini à telle date. Il faut que ça fonctionne, il faut que les utilisateurs soient contents, et eux, ils se rendent compte que l'importance, que la qualité de code est importante, qu'à partir du moment où ils commencent à avoir beaucoup d'utilisateurs et que la solution, elle est bancale en fait, et ça tient plus. Il commence à y avoir plein de edge cases, il commence à y avoir trop de gens, donc des lenteurs. Et c'est là qu'on se rend compte que de faire tout vite dès le début, bah c'est la pire des idées en fait. C'est vraiment la pire des idées. C'est une perte de temps phénoménale après en fait. Mais c'est comme ça que ça se passait ouais, dans les startups dans lesquelles j'étais, c'était clairement ça. Ils demandaient pas, il y avait pas de code review, il y avait rien. C'était faut que ça marche comme ça, sur ce site ça fonctionne, donc fais-le fonctionner sur mon site. En gros, c'était ça.
Quelle leçon tu tires? Je te propose que ce soit le mot de la fin de notre échange. Quelle leçon tu tires de ce passage de 15 à 30 devs, ou en tout cas de cette accélération que tu as pu voir dans les différents projets entre quand tu es passé de 3 à 15 à 30?
Je dirais qu'il faut savoir prendre le temps. Il faut savoir aller vite, mais tout en prenant le temps quand même au début. Disons que la préparation de l'architecture et la mise en place de tous les outils au début, c'est ce qui va définir que tu auras moins de difficultés après et que ça sera moins long après. Ouais, c'est clairement ce que j'en ai retenu. Faut pas hésiter à prendre le temps et la communication et le partage des connaissances, c'est super important entre les équipes et les personnes.
Qu'est-ce que tu as vu qui était le plus efficace là-dessus? Parce que ça, c'est un vrai sujet qui est mal.
Au niveau du partage de connaissances?
Ouais, que je trouve pas toujours. Enfin, que je trouve rarement bien géré. Tu vois, il y a rarement. Ouais, je trouve que c'est un vrai sujet dans pas mal de boîtes.
Ouais, c'est très compliqué. C'est un petit peu un sujet chez nous, je trouve aussi. On a réussi à pallier quelque chose en faisant d'office une documentation, par exemple. Si tu développes un nouveau microservice ou que tu travailles sur quelque chose de nouveau, tu vas obligatoirement faire la documentation qui va avec. Il faut souvent, par exemple, faire lire cette documentation à quelqu'un qui n'a pas travaillé dessus pour voir qu'est-ce qu'elle comprend. Et en dehors de la documentation, il faut aussi beaucoup communiquer dessus. Nous, on fait pas mal de présentations sur le travail qu'on fait. Du coup, toutes les 2 semaines, on présente le travail qu'on a fait les 2 dernières semaines en équipe.
Mais
Et
à
c'est souvent
l'ensemble de
à
la
ce
boîte, à
moment-là,
l'ensemble de l'équipe.
à l'ensemble des développeurs, ouais.
Oh, c'est cool ça.
Et c'est souvent à ce moment-là, du coup, qu'on s'occupe d'expliquer, en fait. Ça marche comment? On a fait comme ça. Après, sinon, on fait des workshops aussi. On fait pas mal de workshops. Dès qu'on voit que tu as fait un microservice un peu compliqué, on va de suite faire un workshop d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, avec tous les techs pour leur expliquer c'est quoi l'architecture du projet, comment ça marche et qu'est-ce qu'on a utilisé. Comme ça, tout le monde est toujours au courant.
Très cool. Bah, bravo pour tout ça. Merci Lisa d'être venue aujourd'hui. Si les auditeurs veulent te suivre et en savoir plus sur ce que tu fais, ils viennent où?
Sur LinkedIn, au nom de Lisa Fassi, c'est tout.
Eh bien, écoute, c'est parfait. Merci Lisa.
Avec grand plaisir, merci à toi.
Quant à toi, cher auditeur, bah écoute, si tu as envie de suivre ce qui se passe avec Kevin, je t'invite à venir sur le podcast, enfin, justement pas sur le podcast, sur le blog artisandéveloppeur.fr. J'y raconte tout ça. Ça nous, c'est le feuilleton 2023. Allez, ciao!